Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Solène Bouton, qui est conseillère de programme chez TF1 Fiction. Bonjour Solène.
Bonjour.
Donc c'est un plaisir de t'avoir pour le podcast L'Entertainment Lab. Voilà, donc un top parcours que tu as eu, Solène, dans l'univers entertainment. Est-ce que tu peux me dire les grandes lignes avant d'arriver dans la grande maison TF1?
Oui, alors donc moi j'ai commencé ma carrière dans la fiction en étant d'abord comédienne. Mm-hmm. Pendant 10 ans, j'ai commencé par faire un film de Claude Chabrol qui s'appelait La Demoiselle d'honneur.
Pas mal.
Et puis après j'ai fait beaucoup de télé et c'est là où est né mon amour de la fiction et mon amour de la télévision et des séries surtout. Mm-hmm. 10 ans après, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas Marion Cotillard, donc voilà, il fallait changer peut-être de vie. Et du coup, j'ai repris mes études. J'ai fait un master d'audiovisuel et avec la volonté de devenir directrice littéraire. Donc vraiment un métier au cœur de la gestion et de la création des épisodes de séries. Mmh. Donc voilà, j'ai été d'abord directrice littéraire dans une société de production qui s'appelait Chabrac, mmh, avec Clémentine Dabadie. Puis après, directrice littéraire chez Making Prod, avec un producteur qui s'appelait Stéphane Drouet. Et ensuite, productrice, j'ai monté le département de télé chez Jericho, avec un producteur de cinéma qui s'appelle Eric Gehlman et Philippe Rousselet. Et puis après, TF1 est venu me chercher. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le métier de conseillère de programme. Et j'avoue être extrêmement heureuse de cette nouvelle axe de ma carrière, parce que c'est vraiment un métier qui réunit à la fois ma vie d'actrice, ma vie de directrice littéraire et ma vie de productrice.
Bah dis donc, plusieurs facettes de chez notre invité, ça c'est bien quand il y a plusieurs facettes entre l'acting, le scénar, la diffusion. Alors on va aller effectivement, moi je voulais t'inviter aussi pour un peu vivre, alors tu pourras dire ce que tu peux dire bien sûr, mais les coulisses un peu de côté chaîne, évidemment, la vie des programmes, parce que c'est quand même l'acteur clé aussi pour diffuser. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, effectivement, ce côté conseiller de programme et comment les facettes de ce métier, finalement?
Alors, ce métier, comme je le disais, donc c'est vraiment un métier à 360, puisqu'on est vraiment à l'étape numéro 1, qui est le choix des projets. Mm-hmm. On a un comité de lecture qui tranche chaque semaine sur ce qu'on va signer ou ce qu'on va pas signer. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, chaque conseiller de programme, on est 8, part avec un portefeuille de projet. Et ce portefeuille de projet, on a pour mission de le développer. Mmh. Donc ça veut dire travailler sur les étapes des arches, ensuite des séquenciers, ensuite des versions dialoguées, jusqu'au green light, jusqu'à la mise en production. Et voilà, et après ça part. Donc on est aussi au choix des réalisateurs, au choix des castings, en échange bien sûr avec les producteurs. On a une vraie complicité avec les producteurs et une envie de partage. Le tournage, et puis après toute la partie post-production. Donc on est vraiment sur tous les maillons de la chaîne, et puis le lancement, la communication, et puis la programmation et la diffusion des programmes.
Bon, toutes les facettes. Et t'aimes toutes les facettes, justement, entre le dev, la prod, le tournage, la post-prod, toi ?
Oui, c'est vrai que c'est ce que je disais en introduction, c'est vraiment un métier à 360 degrés et qui donne à voir toutes ces facettes. Donc oui, il y a une richesse. Oui. Et puis surtout, les projets que j'ai dans mon portefeuille ne sont pas nécessairement au même niveau de développement, et du coup je m'ennuie jamais. C'est-à-dire qu'une journée type, c'est le matin faire de la post-prod sur un projet, après une réunion d'écriture. Donc c'est extrêmement riche Et voilà, on
tu vois
pas.
Naître vraiment et développer tous les projets, tous les bébés projets qui vont ensuite naître. Peut-être parler de quelques projets qui t'ont marqué ces 4 dernières années, justement, depuis que tu es arrivée chez TF1.
Oui, alors moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que je me suis occupée de programmes assez ambitieux. Je pense notamment aux Combattantes, qui a été une aventure extrême, déjà parce que c'est une série sur la guerre, une série d'époque, ce qu'on appelle un period drama, avec des grandes actrices et des grandes stars de TF1, à savoir Audrey Fleurot, Julie Debona, Camille Lou, Sophia Essaïdi. Donc un projet très ambitieux qui était un gros enjeu pour la chaîne, donc il fallait pas se louper. Et en même temps, dans un temps record, parce que c'était un peu la suite du bazar de la charité, en tout cas la volonté d'être dans une anthologie, donc il ne fallait pas le sortir 5 ans après. Donc on avait des délais d'écriture extrêmement courts. Donc on a écrit 8 épisodes en moins de 2 ans.
Waouh, c'était rapide ça. C'était aussi Quad ? C'était en prod ?
C'était aussi Quad, bien sûr. Iris Boucher, la productrice, que je salue d'ailleurs. Donc c'était vraiment une expérience très très intense. Avec beaucoup de pression. Et
beaucoup d'auteurs, tu avais combien d'auteurs là-dessus ?
Alors moi j'étais surtout en lien avec le directeur de collection, la productrice, le réalisateur Alexandre Laurent, qui était extrêmement présent aussi à toutes les étapes d'écriture. Après il y avait un atelier d'écriture où en gros ils étaient 2 auteurs par épisode.
Bon, calcul. Super. Donc la Combattante, ça t'a beaucoup marqué. Et alors après,
il y a un autre projet, 2 autres projets. Un projet qui s'appelle Syndrome E, qui est l'adaptation d'un roman de Franck Thiez qui s'appelle Syndrome E, où il met en place un duo, son duo phare, Charcot et Nobel, avec la productrice d'Escazal qui s'appelle Sophie Réville. Ça, c'était une expérience humaine très forte. La réalisatrice Laure de Butler, un casting 5 étoiles avec Vincent Elbaz, Jennifer Decker de la Comédie Française, Emmanuel Béart, Bérangère Krief, Dominique Blanc. Donc vraiment,
il y a des beaux castes. On sent que tu parles des castes. C'est vrai qu'il y a des très beaux castes et souvent des très beaux rôles féminins d'ailleurs. Ça nous marque. Et puis il y avait Audrey Fleurot ensuite qui a eu son envol avec HPI.
Mais
c'est vrai qu'il y a eu des rôles féminins marquants, je trouve, dans toutes ces séries.
Exactement. Notre cœur de cible étant quand même la ménagère. On est très, très ancré sur le public féminin. Et c'est très important pour nous, en tout cas, de travailler à avoir des figures féminines fortes et qui incarnent le monde d'aujourd'hui aussi. Et puis je pense aussi à un film dont je suis extrêmement fière et je suis extrêmement fière qu'elle nous l'ait confié. C'est la première réalisation d'Alexandra Lamy. Là, on n'est pas sur un format sériel, on est sur un unitaire. Film qui s'appelait Touché. Sur la résilience des femmes et les violences faites aux femmes, mais la résilience à travers l'escrime, l'escrime thérapeutique. Et c'était un film très fort,
aussi.
Très engagé, à l'image des films sociétaux. Avec
on sent cette patte, d'ailleurs, le côté à la fois entertainment, mais le côté société.
C'est très important pour nous d'inspirer positivement la société et donc de parler des thématiques de fond qui peuvent traverser notre...
Comment t'expliques qu'il y a eu cet upgrade ? C'est vrai que quand on en parle comme ça, on se dit, depuis 4-5 ans, quand même, la télé française en fiction, elle a monté en qualité, en rendu, même en premium. Moi, ça m'a marqué à chaque fois, parfois tu tombes sur des fictions TF1, tu te dis le game il est vachement monté quoi. Comment t'expliques ? Ça a été aussi un peu l'effet plateforme qui a tiré le jeu, tu penses, ou...
Ce que je dirais, c'est que il y a quand même un contexte concurrentiel et un contexte aussi international qui fait que aujourd'hui, nous, pour gagner et garder notre statut de leader et de leader européen, il faut qu'on soit force de proposition. J'ai envie de dire à l'international, donc on s'insère dans un marché qui est en perpétuelle mutation, donc il faut vraiment jouer ce
pointe,
jeu-là et à la pointe. Donc ça veut dire aller chercher de la production value qui soit très, très haut de gamme, et puis des castings à renouveler, et puis aller chercher aussi des talents de cinéma, mêler des talents de télévision et des talents de cinéma, ce qui premiumise aussi les projets, aller sur des sujets où on nous attend pas forcément, et donc être vraiment essayer d'être d'être un peu visionnaire dans les thématiques et les sujets qu'on va proposer. Je pense que c'est ça qu'on a loué aussi chez nous, c'est d'aller là où on nous attendait pas forcément. Donc voilà, je pense aussi à des programmes comme Toulouse-Lautrec, qui sont des projets plus chroniques que ce qu'on a pu faire jusque-là et qui en même temps parlent du monde d'aujourd'hui, sont extrêmement sensibles, les randonneuses aussi, qui s'inspirent de thématiques sociétales fortes, le cancer, le handicap, mais qu'on va traiter avec un petit pas de côté et on se rend compte que ça fonctionne.
Bah écoute, ça donne envie en tout cas de ce que tu racontes. Et c'est vrai que on faisait la remarque quand même, les super séries, même si on parle beaucoup des plateformes, c'est souvent les chaînes qui les ont sorties les dernières années quand on y pense, entre les HPI, les combattantes, 10%, Bureau des légendes. C'était pas les plateformes, c'était quand même beaucoup des channels locales.
Hormis Canal, mais merci de.
Non, mais c'est vrai que je tiens à le dire parce que je trouve que souvent on parle beaucoup des plateformes, mais moi, après là je donne un peu mon avis, je sors un peu de mon rôle, mais c'est vrai que les plateformes ont été très très fortes au niveau jusqu'au Covid, enfin il y a quand même, ils ont amené puis des séries internationales assez incroyables, mais c'est vrai que sur le local je trouve que sur la France notamment les chaînes finalement ont un très très bon niveau, et voilà, et je trouve que les plateformes ont un enjeu aussi de se renouveler et de parfois pas forcément amener le même niveau de qualité. Voilà,
merci pour ce constat là je pense que on a un niveau d'exigence vraiment très important, qu'on est extrêmement soucieux. C'est mon lot quotidien de vraiment travailler sur les scripts et d'être extrêmement pointu avec cette vraie ambition, en tout cas chez TF1, de plaire au plus grand nombre. Et donc,
tout en faisant de la qualité.
Tout en faisant de la qualité. Donc, c'est vraiment une interrogation de chaque jour sur si on va sur cette zone-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Là où je pense que les plateformes peuvent aller plus sur des projets de niche. Nous, on a cette envie d'être extrêmement fédérateur. Et donc, tous nos projets portent cela en eux, même si ça n'empêche pas qu'on peut faire ce petit pas de côté, être un petit peu là où on ne nous attendait pas, comme je le disais tout à l'heure.
Mais surtout, je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit sur la production value. Et en plus, comme tu viens du monde de la prod, je trouve que ça, on le sent vraiment dans les prods de TF1 notamment. Non, mais c'est vrai, je dis pas ça parce que tu es là, je dis c'est mon vrai avis. Et que je trouve parfois cette production value sur les prods locales, plateformes, je la sens un peu moins, moi, personnellement. Ou on va la sentir un peu plus sur des séries internationales ou étrangères.
Ça, c'est aussi... Donc, il y a ce soin apporté au texte, mais ce soin aussi et une grande motivation... une motivation pour nos producteurs à vraiment travailler sur des lumières. On est très interventionniste aussi sur... Enfin, c'est pas interventionniste, mais on est dans le partage, en fait, vraiment, et dans une exigence sur l'étalonnage, le mixage, ces étapes fondamentales aussi de post-production. Et on est très regardant et on accompagne nos producteurs vraiment dans cette partie-là, justement pour tirer toujours les choses vers le haut.
Donc, c'est intéressant que tu aies basculé du monde de la prod, des structures, on va dire, plus indépendantes, la chaîne. Qu'est-ce qui a changé, finalement, dans la vie de l'un à l'autre, tu dirais ? Parce que tu as été des deux côtés, finalement.
Donc. Écoute, c'est une bonne question. Moi, je suis extrêmement admirative des producteurs parce que c'est un métier, faut pas facile. Faut avoir une foi ancrée en soi,
chevillée
au corps, et puis aller vendre ses projets et jamais baisser les bras, être dans la croyance et la conviction. Moi, j'ai envie de dire que je me fais le relais de ça, que j'adore échanger avec les producteurs et comprendre quelle a été la motivation, quelle a été, parce que j'ai été de ce côté-là, donc vraiment être dans l'empathie, l'explicitation pour pouvoir, moi, au moment du comité de lecture, défendre la parole des producteurs et d'être au plus près de ce qu'ils m'ont proposé. Après, il y a des moments où ça ne marche pas, où ça marche. Tout dépend de là où on en est de nos recherches, de ce qu'on a aussi en magasin, et pour pas doublonner et pas proposer toujours les mêmes programmes au public. Donc j'ai envie de dire, moi je j'essaye d'être au plus près des producteurs parce que j'ai cette casquette-là aussi et que je la connais. Maintenant, ce qui change, c'est, moi, je travaille pour...
T'es au cœur des projets, là.
Ouais, je suis au cœur des projets, mais j'ai aussi un message à délivrer, ah, qui est le message de ma maison. Et c'est ça qui est mis en avant, surtout. Et donc, mon rôle, c'est de vraiment transmettre l'ADN de TF1 au producteur.
Et alors l'ADN TF1, c'est bien d'en parler, donc c'est une chaîne quand même, la chaîne peut-être la plus connue en France, donc tu dirais l'ADN, c'est vraiment ce côté grand public, mais en même temps ouvert, participatif, un peu plus société aussi, c'est de,
oui,
travers
alors,
la fiction.
J'ai aussi envie de dire un maître mot chez nous qui est le divertissement.
Oui, voilà, quand même.
J'ai envie de dire aussi la joyeuseté, la légèreté, on est vraiment dans une tendance voilà, où on a envie d'offrir des cadeaux au public, du positif. Positif, c'est vraiment notre leitmotiv de chaque jour, et donc c'est cadeau au public. C'est bien de comprendre ce qui peut le traverser, et Dieu sait que la période est compliquée avec l'inflation, avec il y a quelques mois la guerre en Ukraine qui était quotidiennement aux infos. Donc c'est vraiment l'envie de mettre le public face à des choses qui vont le stimuler, mais aussi lui apporter du baume au cœur et de pouvoir le réconforter. Faire rire ou l'éclater, mais en tout cas le divertissement est pour nous vraiment central en ce moment.
Ce qui n'empêche pas des sujets un peu plus société et coup de poing comme ceux que vous avez choisis d'ailleurs, qui sont pas que des comédies films.
Voilà, alors ça c'est l'autre facette, c'est inspirer donc positivement la société, réunir les Français ensemble, donc c'est vraiment avoir cette largesse en tout cas de sujets, et je crois que ça passe par le divertissement et le rire certes, mais aussi par l'émotion. Donc il y a toujours une volonté de d'émouvoir.
Bon, alors oui, on arrive dans la deuxième partie du podcast. Alors sur le scénar, parce que ce qui est intéressant, Solène, en plus, toi, t'es commencé en comédienne. On sait que les acteurs, c'est souvent des bons lecteurs et tout. C'est vraiment ça qui est au cœur j'imagine, tout ton parcours. C'est cet amour de l'écrit, en fait. T'es une passionnée de lecteur. Tu lis depuis de tout temps ou...
Oui, je crois que. Enfin voilà, j'ai un parcours très.
T'es littéraire, là.
Très littéraire, oui. J'ai fait une hippocagne et une cagne. Une licence, un master de littérature comparée et un début de thèse que j'ai arrêté sur Marguerite Duras.
Ah, oula, Marguerite Duras.
cette grande auteure, mais voilà, donc j'ai arrêté ma thèse parce que donc j'ai fait.
Et tu voulais déjà bosser dans la prod à l'époque, ou t'étais plutôt vraiment acting au départ, ou c'est
non, je voulais vraiment être directrice littéraire. J'avais identifié ce métier-là après mon master, et il se trouve que Claude Chabrol est venu me chercher à ce moment-là. Donc c'est vrai que tu te dis, tu vas pas refuser un film de Claude Chabrol. Donc j'ai fait ce film, et après ça a été une carte de visite pendant 10 ans. J'ai envie de dire. J'ai pas vraiment choisi ce métier. Bien sûr, j'ai adoré être sur les plateaux et je me suis...
C'est une première vie, quoi.
Ouais, c'est une première vie. Je pense que ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est le souci de l'incarnation. Et que dès que je lis un script, dès que je lis une version dialoguée...
Ça, c'est une force, le casting, quoi.
Est-ce que ce personnage pourrait dire ça ? Est-ce que c'est vraiment ça ou pas ? Et donc, je avant même qu'on l'envoie à un acteur ou une actrice, pour moi, c'est vraiment très important d'incarner. Et c'est marrant parce que j'étais à une réunion lundi où j'étais très passionnée dans ce que je racontais. Je disais, mais il ne peut pas parler comme ça, c'est pas possible, et tout. Et donc, j'ai refait les dialogues aux auteurs. C'était assez...
C'est bien, ça. Donc, tu joues les personnages quand tu lis les versions. C'est vachement bien.
Enfin, en tout cas, voilà. Mais c'est alors, c'est pas à l'étape du séquencier. J'ai appris la technique aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas uniquement comédienne. Après, j'ai été un peu vite... tout ça, c'est un métier qui s'apprend. Et voilà, donc j'ai une base littéraire, mais j'ai aussi fait toutes les formations.
Oui, les trubis,
le CEA aussi. Et j'ai fait un master à la Sorbonne de scénario.
Linda Seger, tous les trucs ricains, t'as tout lu, les trucs sur le script.
Ouais, maquis, voilà.
T'as tous les fondamentaux, quoi.
Parce que je pense que c'est, il y a un métier qui s'apprend et qu'aujourd'hui, on a eu du retard. Les Américains nous ont appris beaucoup de choses, mais la formation de. On a rattrapé le retard, je pense. La formation de la FEMIS. Est vraiment une très bonne formation aussi.
Que tu avais fait aussi ?
Non, je n'ai pas fait la formation de la FEMIS, mais moi j'ai fait le CEA, qui est une très bonne école aussi.
Des auteurs,
Voilà, donc on a aujourd'hui
une patte,
un vivier d'auteurs qui sont super
et une force souvent via l'international, parce que c'est vrai que pour les personnages, le goût du le charme des persos,
oui, aujourd'hui
c'est quelque chose
on
qui est
on nous envie plus, enfin voilà, on n'a plus à rougir, on a des programmes qui s'exportent hyper bien, donc voilà, et ça va aller croissant.
C'est les persos, la French Touch, elle serait où, si tu dirais, un peu sur les persos, ce charme de pas être que structure, mais un peu, comme tu dis, des trucs très authentiques, de... ça serait quoi finalement
notre
marque?
Je pense qu'il y a... il y a un peu un truc à la Amélie from Montmartre, c'est-à-dire qu'il y a déjà un regard...
Remets ça que Emily in Paris.
Du point de vue des Américains, par exemple, un vrai goût pour la France intrinsèque. Après, je pense qu'aujourd'hui, on crée des personnages qui ont ce côté un peu, c'est le cas d'HPI qui est très française, Morgane Alvaro, elle est très française, mais en même temps, bah il y a un peu de Erin Brockovich, il y a un
oui,
peu
c'est
de
vrai.
Voilà, et donc
elle fait même penser à l'actrice que l'actrice américaine
Julia Roberts,
il y a Julia Roberts ou même une autre actrice mais que j'adore aussi, mais on va la retrouver pendant ce podcast, bien sûr, je lance un truc que je vais pas retrouver mais Audrey Fleurot me fait beaucoup penser à une autre actrice qui est vachement bien aux États-Unis, mais je retrouverai, bon, désolé.
Voilà, je pense qu'en fait, en tout cas chez TF1, notre souci absolument constant...
Jessica Chastain, j'ai retrouvé.
Bonne référence. Jessica Chastain, très belle référence.
Elles ont un petit cousinage.
Ouais, très belle référence. Je pense qu'elle serait contente de l'entendre. Je pense qu'on est aussi vraiment conduit, et c'est aussi notre travail de tous les jours, par le caractère driven, c'est-à-dire de vraiment nourrir nos personnages,
quoi.
Avoir des caractérisations qui soient... un peu détonnante, un peu différente, et en même temps qui crée une identification immédiate et une reconnaissance du public. Et pour l'instant, en tout cas chez TF1, c'est vraiment une
que vous avez amené
patte.
À HPI, d'ailleurs, qu'un personnage comme ça incarne autant une série, c'était assez novateur.
Mais ce qu'on a fait avec Balthazar aussi, et ce qu'on a fait à l'époque avec des Julie Lescaut, avec des Navarro, enfin c'est quand même notre ADN, il est là aussi. Et là, on a plein de nouveaux héros qui vont arriver. Je peux pas vous en dire plus. Mais on est. Et du coup des incarnants qui soient très forts, donc des talents qui soient identifiés aussi.
Sans tout révéler, c'est très très dur vraiment, quand on va pas dire toutes les coulisses d'HPI, mais à un moment de renouveler évidemment les saisons, c'est toi qui vis ça un petit peu de l'intérieur, c'est un sacré challenge finalement
je pense que en fait on est dans une mécanique qui est très huilée, à savoir le polar bouclé, parce qu'on a donc un épisode de 52 minutes sur lequel on a ce qu'on appelle un fil feuilletonnant qui va raconter la vie privée et perso du personnage, mais l'essentiel de l'intrigue c'est le polar, et donc comment on renouvelle ce polar, c'est là où est la difficulté, c'est comment être à la fois classique et dans des chemins balisés et en même temps détonnant, surprenant pour le public qui est quand même très habitué à ce genre. Et donc, sur les mini-séries, c'est un peu différent parce que il faut vraiment créer du rebondissement qui fasse que le public ait envie de rester. Parce que nous, on est aussi dirigé par la publicité, donc il y a des coupures pub. Et donc, on a vraiment ce souci d'être. De travailler sur des cliffs qui soient forts. Voilà.
Bon. Et alors dans tes goûts, peut-être des choses qui toi te marquent en série, alors c'est pas TF1 ou ailleurs, mais des trucs, des chocs pour toi.
Que TF1.
TF1 only.
Non, mais Les Combattantes, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, je trouve que c'est vraiment un programme hyper. Franchement, hyper classe. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'étais hyper fière du succès aussi à l'international via Netflix. Moi, mes claques de spectatrice... mes claques de spectatrice, c'est... là, je suis à fond dans le morning show. J'ai adoré The Bear parce que j'adore la gastronomie.
Ah oui, celui-là, je dois le voir depuis longtemps.
C'est vraiment chouette. Mad Men, je trouve absolument extraordinaire d'en plonger dans un monde et en même temps avec un espèce de deuxième niveau de lecture.
Générique aussi.
Voilà.
Faudrait faire des festivals
magnifique.
De génériques.
Les Sopranos, qui est un peu une. Voilà, donc vous voyez des genres assez.
True Detective aussi, la première saison, t'avais bien aimé.
Je suis moins fan. Ça m'a moins catché. Voilà, moi je suis assez soap en fait, donc j'aime bien aussi les histoires d'amour et les love stories. Et les
Bridget Jones, il repasse là en ce moment un peu sur les télé, chaînes câblées. Je prends plaisir à les revoir.
Un truc un peu de guilty pleasure, coup de foudre à Notting Hill. J'adore, enfin, moi je suis très bon public de la rom-com. Voilà,
sa grande époque,
exactement. Et voilà,
oui, côté généreux, un peu proche du public et un vrai plaisir à voir. Souvent associé, je trouve, un peu à des années 90 ou 2000. On aimerait retrouver un peu ce plaisir d'ailleurs, dans ce côté refuge que tu disais des Français qui s'y raccrochent finalement parce que c'était une époque un peu plus insouciante.
Voilà, moi je suis très. J'ai besoin de programmes lumineux. Même si Mad Men, c'est voilà, il y a un fond qui est plutôt sombre et dark, parce qu'on est quand même sur la dépression d'un homme, mais voilà, il y a
oui, dans la facture,
l'époque que ça nous retranscrit.
Et Suits, t'as bien aimé.
Et Suits, j'ai adoré aussi.
Bien sûr.
J'adore.
Je disais dans l'univers coulisses. Bien sûr. Non, mais donc voilà, 10%, ça t'a plu, même si t'étais chez France.
J'ai trouvé ça super aussi. Non, mais voilà, il y a plein de je cite des productions américaines, mais il y a plein de choses en France que je trouve absolument admirables. Là, j'ai vachement aimé dernièrement sur France Télé aussi une série qui s'appelait Piste Noire. Enfin, il y a
et plein de bonnes choses qui sortent. Hein. Alors, on va parler un peu de féminité. Je ne m'attendais pas à te poser la question, mais je vais te poser la question parce que quand même, on a parlé des grandes comédiennes. Je pensais les réalisatrices aussi qui deviennent aussi sous les feux de la rampe. Moi, j'ai vu Anatomie d'une chute. Bon, on n'est pas dans la comédie.
Non, c'est pas le gros fun.
Tu l'as vu ou pas?
Oui, je l'ai vu.
T'as aimé?
Ouais, j'ai aimé. C'est une claque, j'ai aimé la dimension film de procès et de, et de... Voilà, en effet, après, c'est pas... Il faut être bien dans son couple quoi, pour aller le voir.
Ah, il faut bien s'accrocher. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu coup de poing, c'est assez fort, mais c'est vrai que c'est drôle, toutes ces réalisatrices à Cannes. Et tu penses qu'il y a quand même un côté un peu politique, société, de quand même un moment autant mettre en avant ou pas forcément, c'est tributaire de l'offre qui est proposée.
Je pense que c'est bien, je pense que nous c'est une vraie réflexion aussi qu'on a en interne d'être dans une égalité et
et ça bouge heureusement sur la société.
Ça bouge et c'est bien. Nous c'est vraiment un souci de travailler en tout cas à une plus grande égalité en tout cas entre les acteurs masculins et les acteurs les intervenants masculins et féminins, qu'on a des talents absolument extraordinaires. Je pense à une Laure Butler, à une Stéphanie Pilonka, enfin c'est des super réalisatrices avec des propos, elles ont des choses à raconter,
c'est vrai, elles ont une vraie patte, les réales françaises, elles y vont penses à Justine Trier et du coup Julia,
on parle de cinéma, voilà, en télé on a aussi beaucoup de réalisatrices super. Moi j'ai envie de dire
c'est un mouvement qui est positif,
qui ouvre
les choses et qui peut peut-être faire bouger un peu la justice, j'espère, sur les côtés des on va pas faire un truc politique dans ce podcast, mais c'est vrai, de faire bouger ces sujets importants que TF1 vous avez mis à l'honneur, sur les agressions, sur des choses qui sont aujourd'hui où il y a des gens qui subissent
encore. Donner la parole, libérer la parole féminine, c'était vraiment l'objet du film d'Alexandra Lamy, par exemple, Touché, avec une vraie volonté derrière de transmettre un message et de dire peut-être qu'il y a une femme derrière son écran qui est victime de ça, et si on peut l'aider on sera hyper fiers quoi.
Là, c'est bien qu'il y a ce lien société. Je trouve que c'est encore plus, on le sent que c'est plus fort depuis 3-4 ans sur les peut-être aider
là,
les gens, être utile.
On a diffusé un film très fort avec Muriel Robin sur l'inceste, c'est des sujets qui sont super délicats, on essaye de le faire avec beaucoup de subtilité parce qu'on n'est pas là non plus pour être démoralisateur et voilà, mais en tout cas donner un pouls de la société et ce sujet s'en emparer, c'était très important et on a eu des retours extrêmement forts et qu'une actrice comme Muriel Robin y aille, on est très fiers.
T'as pensé quoi ce qu'elle a dit là chez Léa Salamé? Elle disait qu'elle comprenait pas de pas avoir eu trop de rôles, c'était dur.
Je vais pas me prononcer. Moi Muriel c'est vraiment une personnalité que j'admire énormément et que je trouve elle porte en elle une grande popularité.
Elle fait pas des non-dits, ce qui est bien, c'est qu'elle disait les choses
voilà,
très authentiques.
Après, moi, j'admire la comédienne et voilà, pour avoir travaillé sur un projet avec elle, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement pudique et voilà, j'ai beaucoup, en tout cas, sur les yeux grands fermés, c'est un projet Jéricho, donc j'ai été d'autant plus sensible à de voir que c'était eux qui le faisaient, puisque c'est la boîte d'où je venais. Enfin voilà, qu'elle s'empare de ce sujet, qu'elle ait envie de le faire et qu'elle ait envie d'y aller, c'est hyper courageux, parce que c'était risqué quand même, donc c'est classe.
Bon, bah, on sent cette audace. Alors voilà, toute dernière partie du podcast. Alors ça, c'est la question que je pose traditionnellement aux invités. Bah, c'est tes goûts, on a un peu parlé, mais tes goûts en matière de ciné, série. Alors série, t'as fait pas mal déjà. Ciné, BD, musique, ça peut être d'autres créations, des expos, enfin des choses qui te marquent, toi, d'un point de vue créatif.
Bah, moi, je suis très portée sur la culture. Moi, j'aime la bouffe. Surtout.
Ah d'accord. Comme les Français, t'es cohérent.
Voilà, je suis extrêmement fascinée par l'art culinaire. Donc, l'envie de découvrir des restos tout le temps, c'est vraiment...
C'est vrai, un peu des restos un peu inédits.
Mon mari étant dans la partie aussi, donc voilà. Je
ah, culinaire. Pas, voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué, tiens, un souvenir culinaire où tu t'es dit, ah oui, qui t'était un peu, qui détonnait, un peu inédit ou... moi j'en ai un cet été dans le sud-ouest, mais toi je sais pas si...
Ouais, je suis allée, alors pas dans le sud-ouest, moi dans le près de je vais dire une bêtise, un resto qui s'appelle La Chastagnette, qui est une expérience assez extraordinaire.
Il est où La Chastagnette?
C'est près de Montpellier, pas très loin.
D'accord.
De Montpellier.
Et ça t'a marqué?
Ouais, parce qu'en fait, ils ont un jardin potager où ils vont chercher des petites fleurs, des courgettes. Tu sais jamais ce qu'ils vont te faire, en fait, le jour J. Ils travaillent beaucoup les poissons. Voilà, après, donc ça, c'est un très bon resto. Il y a un resto qui est formidable aussi, qui s'appelle Honor, de Thierry Marx, qui a ouvert il y a presque un an. Voilà, je suis fan du chef Thierry Marx.
Il est à Paris,
ouais,
Honor?
Ouais, ouais. Près de la salle Pleyel. J'aime beaucoup la chef Adeline Grattard aussi.
Ah ouais, t'es une fan.
Ouais, je suis une grosse.
Et t'as fait les grands, les trois étoiles et tout ça.
Oui, mais c'est pas forcément les trois étoiles.
Ceux-là qui te marquent
le plus. Quand je parle de Thierry Marx, voilà, c'est un chef étoilé. Mais j'aime le monsieur derrière et j'aime aussi toutes les causes pour lesquelles il s'engage.
Oui, il est très engagé, lui, sur les jeunesses et tout ça.
Et voilà, donc ça, en fait, c'est aussi la figure qui me séduit. Après, j'aime beaucoup aussi la peinture. J'ai un petit garçon qui est très, un très bon dessinateur et très créatif. Donc, j'essaye de l'initier à ça. Là, j'ai très envie d'aller voir l'exposition Van Gogh au musée d'Orsay. Mais j'aime beaucoup aussi la photographie, dont je suis très.
Ah ouais. T'as fait Arles un peu les expos photos.
Ouais. Alors pas cette année, mais l'année dernière.
Ça, c'est magnifique. Hein.
Ouais, c'était magnifique. Et il y avait une exposition aussi sur, je crois que c'était Jeanne Moreau. Enfin, il y avait tout un truc avec Chabrol, d'accord, Jeanne Moreau, enfin c'était assez émouvant.
T'as fait Carrière de lumière aussi?
C'est magnifique.
C'est incroyable,
magnifique.
Moi je l'ai fait avec Cézanne et la musique de David Bowie.
Extra.
C'était quelque chose. Hein.
Alors moi j'ai pas fait Cézanne, qu'est-ce que j'ai fait?
Je vais
dire une bêtise, mais voilà. Donc ouais, j'essaye. On a la chance à Paris de pouvoir avoir accès à beaucoup de choses culturellement parlant. Donc là, je vais beaucoup au théâtre forcément puisque je suis très, j'aime les acteurs et donc j'aime les voir sur scène.
Ah, tu vas souvent? Ah, j'adore le théâtre. Moi,
ouais, bien sûr.
T'arrives à y aller souvent? T'as vu quoi là?
Là, je suis hyper pressée parce que la semaine prochaine, je vais voir La Note.
Ah, je vais y aller aussi.
Audrey Chebat avec Sophie Marceau.
Ah oui, j'y vais moi
et
aussi.
Et François Berléand, et je vais aller voir Vidéo Club la semaine d'après avec Yvan Attal et Noémie Lovski, pardon.
C'est mal,
là, c'est les deux pièces que je vais voir, mais j'essaie d'aller au français. J'avais vu.
C'est exceptionnel le théâtre, moi, je trouve. Hein. C'est, même si j'adore le cinéma, je trouve que le théâtre, c'est unique. Enfin, c'est un plaisir. Les gens, ils devraient y aller presque plus. Voilà. Alors, c'est une sortie, mais c'est vrai que c'est. C'est marquant, quoi.
Bah moi, j'encourage tout le monde à aller voir, aller à la Comédie Française. C'est trop beau. En fait, je trouve qu'il y a un décorum. On est plongé dans une autre époque. Il y a un truc magique. Donc voilà.
Non, et concert et tout ce qui est musique, tu peux
moi,
pas tout faire
moins,
non plus.
Moi, je suis moins musique. C'est-à-dire que j'ai pas été forcément initiée à ça. Je suis assez En fait, j'ai un rapport assez de comédienne à la musique, c'est-à-dire qu'il faut que ça me crée une émotion.
T'es une vraie actrice.
Je suis très éclectique, mais j'ai pas de goût très arrêté. Faut que le morceau me porte, quoi.
Et alors, actrice, alors juste
par exemple, là, je suis très sur Dua Lipa dans Barbie.
Oui. Ah bah, Dua Lipa, bah c'est bien. Hein. Et Barbie, ça t'a plu alors? T'es une fan de Margot Robbie ou?
Ouais.
Oui, ça.
Je suis fan de Margot Robbie.
t'es pas là seule. Hein.
Non. Je l'ai adorée dans Babylone surtout.
Ah oui, c'est une actrice. Oui, je trouve qu'elle éclipsait un peu Brad Pitt. Souvent, quand elle va dans les trucs avec même des énormes stars, on dit ah oui, c'est même elle qui prend la lumière.
Elle est
exceptionnelle, cette actrice. Ouais. Hein. Et alors après, effectivement, sur ce que le côté, là, je me fais un petit kiff. Je sors de là. Il y a une dernière question, mais je te pose comme ça là sur le côté comédienne. Les actrices, toi, qui t'ont marqué, enfin un peu tes actrices qui t'ont inspiré, enfin qui t'ont que t'adores.
Bah, je citais Marion Cotillard tout à l'heure. C'est vraiment Marion Cotillard pour moi. C'est
la
en fait, je l'ai rencontrée une fois. Elle est rentrée dans une pièce. Elle prenait toute la pièce.
C'est vrai?
Je pense que cette femme a un aura absolument extraordinaire. Donc voilà, ça
c'est le rôle où tu l'as préféré, c'est plutôt La Môme ou De Rouiller d'Os ou tout, ou tu l'adores dans tout?
Non, je l'adore dans tout. Je trouve que c'est
une grande fan de Marion.
Vraiment exceptionnelle. Bon, ça c'est plus je suis très fan de Juliette Binoche aussi.
Ah oui.
Je suis très j'aime beaucoup Sandrine Kimberlin, ça c'est pour les actrices françaises. Pour les actrices américaines, il y en a énormément, mais Julia Roberts, une Margot Robbie en effet, une Kate Blanchett, une Meryl Streep.
Meryl Streep, elle est citée par tout le monde. C'est comme De Niro pour les hommes.
Exactement,
quoi. C'est
mais
les basiques.
Bon, je m'en aurais mis la citer. Et puis après, il y a une Vivienne Leigh.
Les grandes actrices d'avant. Et en homme, tu citerais qui dans les acteurs français ou étrangers que tu adores?
Moi, j'adore Harrison Ford.
Ah oui, ça, c'est le basique.
J'adore De Niro. J'adore Al Pacino.
Ah oui, bon, les grands, quoi.
J'adore Clint Eastwood. Ça c'est pour les Américains. Pour les Français, j'aime beaucoup Benoît Magimel.
Ah oui,
parce que j'ai eu la chance de tourner avec lui. J'ai joué mon frère.
D'accord.
Donc c'est mon grand.
Tu l'as revu un peu?
Ponctuellement.
Et lui, il a bien ces dernières années. Pareil, il a pris un envol incroyable.
Une vraie ampleur
sur des rôles incroyables.
Et il est extraordinaire. Vraiment, c'est un acteur que je trouve vraiment dément. Qui citait d'autres. J'aime beaucoup Cluzet.
Oui, bien sûr.
Et puis après, dans la jeune génération, j'aime beaucoup Reda Kateb, j'aime beaucoup Tahar Rahim, j'aime beaucoup Pierre Ninet. Enfin, je trouve qu'il y a une jeune génération.
Il y a beaucoup de talent quand même. C'est vrai
et même chez les jeunes actrices, une Adèle Exarchopoulos, j'arrive jamais à dire son nom, pardon.
Adèle Exarchopoulos.
Laila Bekti. Mais dans des genres un peu différents, je trouve qu'une Doria Tillier, elle est extrêmement solaire. Je trouve qu'on a une belle.
Il y a de quoi faire. Hein.
Une belle génération de nouveaux acteurs.
Alors, Claude, en deux mots, allez, Claude, la rencontre avec Claude Chabrol, qu'est-ce qui t'a appris? Il t'a marqué sur quoi, ce personnage qui était quand même un des très grands metteurs en scène français?
C'est
Chacha son surnom.
Chacha, ouais. En fait, je l'ai rencontré sur un film sur lequel que je devais faire et finalement je n'ai pas fait parce qu'il y a eu un changement d'acteur, donc une problématique d'âge de rôle. Donc ça a été très dur parce que il m'a dit oui puis après il m'a dit non. Et il se trouve qu'il m'a rappelé 2 ans après en me disant « je t'en dois une parce que je t'ai fait un sale coup il y a 2 ans et donc j'ai écrit un rôle pour toi donc tu n'as même pas passé d'essai ». C'était ça, Chacha. C'était quelqu'un qui
voulait
travailler en famille et qui avait besoin de sa bande et qui était extrêmement
familial.
Et voilà, il travaillait avec sa script qui était sa femme, sa fille qui était sa première assistante. Et que je suis extrêmement fière d'avoir fait partie de cette famille-là. Et c'était un film de bande. Et on commençait par ça. Bah, après, c'est compliqué parce que tu as l'impression d'avoir tout fait, quoi.
Et il donnait beaucoup de force aux acteurs. C'était quelqu'un de très chaleureux qui finalement donnait. Il encourageait beaucoup.
Fait hyper bien sur ses plateaux.
Oui, parce que je pensais, je pensais au Lino Ventura, tous les tournages d'avant où il se faisait les repas de ouf.
Ah non, mais c'était la table, était vraiment. C'est quelqu'un qui était extrêmement. Il notait tout dans un petit carnet. Tout était extrêmement pensé. Son découpage, il était écrit à l'écriture du collégien dans ce petit carnet d'écolier. Il faisait très peu de prises. Il faisait une prise, il venait te voir, il te donnait une indication. Et puis après, tu savais tout. Il y avait 2-3 prises maximum.
Wow.
Donc ça allait très vite.
Ah oui, il allait à l'essentiel, quoi.
Et après, j'ai retourné dans d'autres films où j'ai vu la lenteur du cinéma. Et en fait, d'être passé, enfin, bon, ça prend beaucoup plus de temps qu'en télé. En télé, on tourne. Et moi, le rythme, et c'est là où est née ma passion de la télévision aussi, c'est un rythme beaucoup plus rapide. Et ce rythme rapide, Chabrol l'avait.
Et d'ailleurs, Marc Lavoine disait comme toi que j'avais rencontré, qui a été très marqué par la rencontre avec Claude Chabrol sur le film, je crois, L'Enfer à l'époque. Donc, c'était aussi quelqu'un qui l'a beaucoup marqué. Et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut travailler dans ce monde de la production. Hein. Ça peut être on va dire, à la fois acting, dev et les chaînes de télé. Je pense que c'est un univers, on le sait, spécifique. Mais toi, finalement, ce que tu pourrais transmettre à des gens qui veulent se lancer là-dedans, quoi.
De regarder TF1.
Ah, ils vont être contents, là.
Non, j'ai envie de dire... déjà d'être curieux, d'être au fait de toutes les tendances, que ce soit sériel, de regarder un maximum de choses, mais en littérature et de ne pas avoir peur d'aller frapper à la porte des gens qui nous paraissent impossibles à atteindre.
Au culot, c'est l'école du culot, quoi.
Ouais, mais moi, je crois à la force.
On va saluer Lambert Wilson qui avait fait mon film. Je me fais des petits kiffs dans ce podcast, mais il avait accepté de faire mon scénario. Mais c'est vrai qu'il reste heureusement des talents et que je trouve que les talents, ils sont réceptifs à l'écrit. Et je te rejoins sur le scénario, c'est qu'un bon script, finalement, des bons rôles, n'importe qui peut dire
sûr.
Oui si le texte
il faut
y
croire,
arrive.
Et que moi, dans ma vie, j'ai eu la chance de me constituer un réseau dans cette vie d'actrice, l'importance du réseau. Donc, pour ça, il faut le construire. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens. Voilà.
Bon, pas avoir peur d'aller voir les gens. Bah, ça fait un pont avec TF1 et le côté très rassembleur. On pensera Hall de Boulogne-Billancourt. Merci beaucoup, Solène. Et c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast.
Merci à vous, j'étais ravie.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.